morning edition from NPR News.
Let's see things on the house.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, puisqu'on lève l'obligation de masque dans les transports chez nous, que de fait on sonne la fin de la pandémie, c'est l'occasion, comme on ne l'avait pas fait depuis un bout de temps, d'aller voir chez les autres qui, je ne vous l'apprends pas, sont dans des situations très contrastées et pas à l'abri non plus d'un nouveau variant. Le bruit du monde ce soir est au Liban qui vote ce dimanche, mais voter pourquoi avoir 20 ans au Liban en 2022 dans un pays en ruine, miné par les conflits d'intérêts, par la corruption, ça veut dire quoi? Vous allez le comprendre avec le reportage d'Aurélien Colli. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Eugénie a trouvé une pénurie de lait maternel aux États-Unis. L'Écosse qui n'a pas peur de viser la Lune et Wim Wenders qui s'installe au Japon. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu l'as quitté. Angélique Boin, comme chaque jeudi, qui a posé la question aux juristes de Bruxelles. Désobéir au traité, ça implique quoi très exactement? 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four et cette adhésion de la Finlande à l'OTAN. Cette demande compréhensible, nous dira Jean-Marc, mais un nid à grosse pagaille aussi. Le monde est vaste, on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Dès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Antoine Flahaut.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Monsieur Flahaut, vous êtes épidémiologiste, bien sûr, directeur de l'Institut de Santé Globale de l'Université de Genève. Nous allons profiter ensemble de ce sommet international virtuel consacré au Covid-19 qui s'est tenu à Washington pour refaire un point comme on avait l'habitude de le faire ensemble ces derniers temps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas livré à cet exercice et c'est bien dommage. Un mot quand même sur ce sommet, Antoine Flahaut. 3 milliards de plus, 3 milliards de dollars, sachant dans le même temps, et je trouve ça plutôt intéressant, que les États-Unis eux-mêmes ont un mal fou à financer leur propre pandémie. Ça dit beaucoup de choses, ces chiffres-là.
Oui, c'est vrai que si les deux tiers de la planète sont aujourd'hui vaccinés contre le Covid, il y a une très forte inégalité qui subsiste, en particulier les pays les plus pauvres de la planète qui sont encore à 15%, 20%. Et donc, lever des fonds pour que on puisse mieux répartir les efforts. C'est pas simplement les vaccins, hein, c'est aussi les tests, c'est aussi les traitements, c'est aussi la surveillance épidémiologique. Tout ça est d'une très très grande importance. Et tout cela doit se faire d'une façon la plus multilatérale possible. Alors là, c'est une initiative des États-Unis qui ont réussi à avoir un certain réseau de soutien, de support, notamment européen, mais aussi indonésien, aussi africain. Il manque encore une partie du monde et en fait, heureusement, les discussions qu'on appelle multilatérales vont se dérouler dans une dizaine de jours à Genève. Là, il y aura l'Assemblée mondiale de la santé, qui est une sorte de conseil d'administration de l'Organisation mondiale de la santé et qui pourra pousser ses soutiens et notamment, il n'y a pas seulement besoin d'un soutien de type philanthropique, mais il y a aussi besoin véritablement de construire, de fabriquer des produits de santé essentiels dans tous les pays du monde, dans tous les continents en tout cas, et notamment en Afrique.
Et d'apprendre à prévenir aussi, on y viendra dans un tout petit instant. Et c'est vrai que nous marquons, nous, ici, symboliquement, la fin du masque dans les transports à partir de lundi. Donc le sentiment qu'on a tous, c'est bon, c'est fini. Peut-être qu'on pêche évidemment par optimisme, mais fin de la phase aiguë. Est-ce que ça, Antoine Flahaut, on peut le dire à l'échelle du monde ou pas?
Alors, à l'échelle du monde, certainement pas. Il y a des endroits de la planète où l'épidémie fait rage en ce moment et où elle redémarre sur une nouvelle vague. C'est le cas de l'Afrique du Sud, c'est le cas des États-Unis mais aussi où la préoccupation est à son sommet. Et c'est le cas des pays qui ont une faible couverture vaccinale de leurs personnes vulnérables. C'est le cas de la Chine, par exemple, aujourd'hui, ou de la Corée du Nord. Donc, on ne peut pas dire que la pandémie est terminée, malheureusement. On peut dire que, en tout cas, une vague est en train de régresser en Europe, notamment en France, parce que ce n'est pas le cas de toute l'Europe. Il semble qu'il y ait des frémissements de rebond, par exemple au Portugal, qui sont un peu préoccupants, mais il est possible qu'il y ait une petite accalmie, et même pas forcément de très longue durée, mais il faut certainement aujourd'hui, quelque part, en tirer des bénéfices, et on peut comprendre que des mesures sanitaires soient levées. Elles le sont en Suisse, elles sont aussi levées au Danemark, elles sont maintenant levées en France et dans beaucoup d'autres pays européens.
Parce qu'il y a plusieurs semaines, Antoine Flahaut, on se souvient bien, alors c'était chez nous en Europe, mais beaucoup de pays ont dit, désormais on traite le Covid comme un virus endémique. Est-ce que vous dites aujourd'hui, attendez, il est très loin d'être endémique et le traiter comme ça serait une erreur?
Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on a quand même complètement modifié notre façon de gérer la pandémie depuis l'arrivée d'Omicron. Mmh. En fait, il faudrait dire surtout depuis la grande couverture vaccinale des populations européennes. Parce que Omicron a fait des dégâts majeurs à Hong Kong. Et si la Chine est enferrée dans cette politique où elle essaye de maintenir ce zéro Covid, c'est parce qu'elle n'a pas tellement d'autre choix. Mmh. Sinon, risquer des millions de morts dus aux dégâts que pourrait causer Omicron sur les personnes âgées en particulier. Donc, on a une sorte de paix armée, on va dire. C'est-à-dire qu'on est bien équipé aujourd'hui pour ne plus avoir affaire à des reconfinements. Et en ce sens, ça a changé. Mais c'est vrai, vous avez raison de dire, ça n'est pas une endémie. Je ne sais pas ce que veut dire, sinon une endémie. Vous savez, en principe, les épidémiologistes, nous, on dit qu'une endémie, c'est lorsqu'il n'y a plus de pic épidémique, lorsqu'il n'y a plus de vagues. Personne n'est capable de dire et de prédire qu'il n'y aura plus de vagues. Donc aujourd'hui, on est plutôt bien armé contre les formes graves. Maintenant, il reste encore un pan entier qui n'a pas été bien abordé, c'est de s'armer contre les vagues elles-mêmes, contre les vagues de contamination.
Alors la Chine que vous avez évoquée, on y viendra dans un tout petit instant, très spécifiquement avec Sébastien Berriot qui nous attend depuis Pékin. Mais est-ce qu'on se dit aujourd'hui qu'il est possible qu'il émerge un variant qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit en ce moment? Parce qu'on a bien compris que depuis un certain temps, on est dans une variation permanente d'Omicron, avec effectivement de nouveaux variants du variant, mais qui ne changent pas... Un essentiel qui est quand même fondamental, qui est de dire il n'est pas plus dangereux que les précédents. Donc c'est au moins ça de pris, et puisque nous sommes vaccinés, les choses vont relativement bien. Mais est-ce que désormais c'est ça qui nous attend, cette espèce de variation permanente, ou est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'une totale variation totalement différente qui remettrait tout ce que nous avons dit là à l'instant en cause, Antoine Flahaut?
Alors, je pense que dans le domaine, il ne faut pas trop se faire des films de science-fiction, parce qu'on est à l'abri de rien à ce moment-là. Bien entendu, on ne sait pas très bien ce que l'avenir sera. Ce qu'on peut dire juste, c'est que le SARS-CoV-2, ce coronavirus, il mute. C'est un virus à ARN assez fragile, finalement, qui mute facilement lorsqu'il se multiplie. Et là, il se multiplie partout sur la planète, beaucoup, dans beaucoup de vagues épidémiques. Donc, ce n'est pas très étonnant de voir émerger des nouveaux variants. Les nouveaux variants, comme vous le dites, c'est bien, ces nouveaux variants, ils sont extrêmement désagréables et pénibles, puisqu'ils entraînent des vagues de contamination, ils entraînent des Covid longs aussi, c'est-à-dire des maladies post-infectieuses qui peuvent être invalidantes et extrêmement pénibles. Mais aujourd'hui, quand on est vacciné, triplement vacciné, on voit bien qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup moins de risques d'en mourir. Donc, quelque part, on a des nouveaux variants dont on n'a pas tellement de raisons aujourd'hui de penser qu'ils vont se comporter très différemment des variants qui ont circulé jusqu'à présent.
Mais est-ce qu'on dit, Antoine Flahaut, qu'on est toujours vacciné, puisque nous le sommes tous, dans les pays occidentaux en tout cas, désormais depuis un certain temps, même les quatrièmes vagues, les quatrièmes doses, puisque tout le monde n'a pas de quatrième dose, sont des doses qui sont finalement lointaines. Peut-on considérer que nous sommes tous encore vaccinés, puisqu'on sait bien que la durée d'efficacité reste une durée d'efficacité limitée?
Alors, il y a deux types de protection que confèrent les vaccins. Il y a une protection qu'on va appeler presque une sorte de la première digue immunitaire, qu'on appelle la protection d'immunité humorale, c'est-à-dire les anticorps. Alors, cette immunité-là, elle n'est pas très efficace, conférée par les vaccins, elle n'est pas très efficace contre la transmission. On l'a bien vu pour Omicron, les gens étaient triplement vaccinés, ils se faisaient ils contractaient des infections. Et il y a une deuxième digue qui est en fait beaucoup plus importante pour nous, qui est la digue de protection immunitaire à immunité à médiation cellulaire. C'est des mots un peu compliqués pour expliquer que c'est des sortes de batteries que nous avons, c'est des lymphocytes T, c'est des batteries que nous avons dans notre organisme qui accumulent, non pas de l'énergie, mais qui accumulent de l'immunité contre ce coronavirus. Quels que soient ces variants, jusqu'à présent, l'immunité se renforce à chaque dose contre tous les sous-variants et variants du coronavirus. Eh bien, on peut dire que non, cette immunité-là, elle ne disparaît pas, elle se renforce au contraire, et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a une diminution de l'immunité à médiation cellulaire, c'est-à-dire contre les formes graves de la maladie. Alors que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de protection, même avec 4 doses, contre une infection avec un nouveau sous-variant d'Omicron.
Et alors, vous savez pourquoi je vous emmène sur le terrain de la vaccination, parce que vous y avez un peu mis les pieds. Je voudrais qu'on aille faire un tour en Chine quand même. Bonsoir Sébastien Berriot.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le correspondant de Radio France en Chine et merci beaucoup de veiller pour nous puisqu'il est plus de minuit. On va parler de Shanghai dans un tout petit instant, mais je voudrais quand même que vous me disiez, on a bien vu que là, Pékin à l'instant dément et dit c'est pas vrai, nous ne sommes pas confinés. Vous qui y vivez et qui voyez, est-ce que vous diriez que de fait, et dans cette espèce de panique dont parlait à l'instant Antoine Flahault, oui, Pékin est aussi en fait confiné?
Alors, ce qu'il faut dire à Pékin, d'abord, c'est qu'il y a très peu de cas. On est dans une ville de 21 millions d'habitants et depuis une semaine, Pékin enregistre seulement une moyenne d'une cinquantaine de nouveaux cas tous les jours. Hier, on était même à 36. Et c'est là qu'on voit la spécificité de cette politique zéro Covid, c'est-à-dire très peu de cas, mais des restrictions sanitaires qui sont extrêmement forte pour protéger la capitale. Par exemple, dans le district de Chaoyang, qui est le principal district de la ville, quartier d'affaires, quartier commercial, on ne peut plus manger au restaurant depuis 2 semaines. Les magasins non essentiels ont reçu l'ordre de fermer. Télétravail obligatoire. Une soixantaine de stations de métro qui sont fermées, ainsi que des dizaines de lignes de bus. Et ce qui est parfois lourd à supporter pour la population, c'est qu'on a l'impression que chaque jour, il y a de nouvelles restrictions sanitaires qui entrent en vigueur. La dernière en date, par exemple, c'est l'interdiction des taxis dans certains quartiers. La mesure est effective depuis ce matin, tout comme une autre fermeture très symbolique, la cité interdite, qui n'est plus accessible depuis ce matin. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que pour autant on peut parler de confinement de la ville? Eh bien non, parce que la plupart des habitants de Pékin ont tout de même le droit de sortir dans la rue pour aller au supermarché, tout simplement pour se promener. Il n'y a pas d'interdiction de sortir de son domicile. En tout cas pour le moment.
Contrairement effectivement, et ça on l'a déjà beaucoup dit, à ce qui se passe à Shanghai, et ce qui est très paradoxal, Sébastien, à Shanghai, c'est qu'on sent bien que le nombre de cas est en train de descendre drastiquement, mais plus le nombre de cas descend, plus l'enfermement est maximum en fait.
Oui, alors à Shanghai, on peut dire que la stratégie zéro Covid commence à produire ses effets, puisqu'effectivement, le nombre de cas diminue de manière significative. Je peux vous donner quelques chiffres. Le mois dernier, au plus fort de la crise, les autorités ont enregistré 27 000 nouveaux cas par jour. Là, on est maintenant à 1400, par exemple, pour la journée d'hier. Alors, on pourrait se dire que cette baisse pourrait inciter les autorités à relâcher la pression et lever le confinement pour certains habitants. Eh bien, pas du tout. Ce qui est recherché, c'est bien le zéro Covid, et donc pour y arriver le plus rapidement, on assiste depuis quelques jours à un durcissement des mesures sanitaires avec des situations qui paraissent parfois complètement invraisemblables. Par exemple, dans une résidence, vous avez un cas déclaré, et bien aussitôt, c'est tout le monde dans le bâtiment qui est envoyé dans un centre de quarantaine, même les personnes négatives, ce qui provoque beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux.
Et deux questions en une, Sébastien Berriot, avant de retrouver à nouveau Antoine Flahault. Diriez-vous que cette situation, c'est la crainte de la Chine parce que si on ouvre, le virus risque de redécoller à grande vitesse, ou diriez-vous qu'on en est là parce que politiquement, Xi Jinping ne peut pas avoir tort? C'est le principe d'une dictature. Est-ce qu'il y a un peu des deux finalement?
Alors effectivement, il y a la raison politique, parce que Xi Jinping s'est engagé personnellement dans cette stratégie zéro Covid, donc difficile politiquement de revenir en arrière, surtout à quelques mois du congrès au mois de novembre où le président chinois doit être désigné pour un nouveau mandat. Mais il y a aussi des raisons effectivement qui sont sanitaires, on l'a évoqué il y a quelques minutes, c'est un paramètre qui est réel, on sait que la vaccination est insuffisante pour les personnes âgées en Chine. L'abandon de la stratégie zéro Covid pourrait se traduire par une forte mortalité. Il y a une étude réalisée par des scientifiques chinois et américains qui vient de sortir et qui dit que l'abandon de cette politique provoquerait une saturation complète des services de soins intensifs dans les hôpitaux chinois. Et ce que dit cette étude, c'est qu'il y aurait 1,5 million de morts dans la population chinoise.
Et merci beaucoup Sébastien Berriot. C'est des chiffres qui sont assez terrifiants, qui sont très terrifiants. Antoine Flahault, diriez-vous, est-ce qu'on a ce recul nécessaire aujourd'hui que un pays comme la Chine, c'était le cas de Hong Kong précédemment, n'est pas vacciné, surtout dans sa population fragile, parce que la population n'a pas eu confiance, parce qu'on n'a pas jugé utile de le faire, puisque la stratégie zéro Covid a marché longtemps, ou parce que ce vaccin chinois n'est pas efficace?
Non, c'est un peu compliqué, en effet, de comprendre pourquoi les personnes âgées de plus de 60 ans sont si peu vaccinées, si mal vaccinées, que ce soit à Hong Kong ou en Chine. Ce que nous rapportent les Chinois, c'est deux choses. D'une part, les personnes âgées ont confiance dans les médecines traditionnelles et n'avaient pas tellement confiance dans les vaccins et n'avaient pas de volonté de se faire vacciner. Il courait aussi une rumeur que le vaccin était mal toléré et que si vous étiez une personne âgée un peu fragile, vous alliez passer l'arme à gauche avec la vaccination, à tel point que des médecins chinois refusaient de vacciner des personnes âgées, trop âgées par exemple, pensant qu'ils allaient être fragilisés par la vaccination. On sait maintenant avec le recul qu'il n'en est rien, au contraire, les personnes âgées ont plutôt une très bonne tolérance vis-à-vis de ce vaccin. Et par ailleurs, il y a aussi des questions un peu logistiques, c'est-à-dire que pour se faire vacciner, il faut aller à l'hôpital, et un certain nombre de personnes âgées n'étaient pas très mobiles, et on n'allait pas chez elles, et il y a très peu de maisons de retraite en Chine, et donc il y a aussi un très grand respect de la personne âgée, donc on ne les force pas. Et quelque part, ils se trouvent dans une impasse aujourd'hui, parce que ils sont très proches de notre état immunitaire lorsque nous étions en 2020, et donc ils reprennent les mêmes recettes qui d'ailleurs marchent assez bien, c'est-à-dire des confinements extrêmement stricts et autoritaires qui sont la seule solution en l'absence de vaccination et d'immunité des personnes fragiles.
Une dernière question avant de vous laisser, Antoine Flahaut. Et alors c'est vrai que nous, dans nos pays, on a l'impression que les choses commencent réellement à sentir la fin, qu'on est sorti de quelque chose. Diriez-vous, vous, les épidémiologistes, que désormais, si vous criez attention, cette fois, on vous écoutera, ce qui n'a pas été le cas précédemment. Diriez-vous que ça, au moins, on l'a appris et que nous saurons désormais réagir? Est-ce que, au moins, nous avons gagné ça?
Alors, je ne crois pas qu'on ne nous ait pas écoutés. Je pense qu'au contraire, la réaction de tous les pays dans le monde, d'abord, a été assez voisine. En fait, on a utilisé à peu près les mêmes recettes. Il se trouve qu'en Europe, il y a eu quand même une très grande et très bonne coordination sur le plan du vaccin. La coordination n'a pas été excellente sur tous les plans, mais quand même, regardons le vaccin. Il a été distribué au même moment à tout le monde, de façon équitable dans l'Union européenne. Donc on peut dire que non, les Européens sont plutôt... tous les pays du monde ne se sont pas... ont pas été très performants, mais les Européens ont plutôt une réponse qui est guidée par la science. Après, qu'il y ait d'autres considérations et pas que celles des épidémiologistes, c'est aussi audible, hein, mais grosso modo, on peut dire quand même que les conseils scientifiques des différents pays, les avis des scientifiques ont été largement suivis et que on peut espérer, grâce à ça, avoir empêché d'une part des hécatombes de décès qui seraient survenus et d'autre part des confinements à l'envi, comme on le voit dans certains pays.
Et pourvu que ça serve, j'allais dire, hélas, peut-être pour la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup, Antoine Flahaut, vous serez le bienvenu, on en reparlera évidemment très prochainement. Merci encore.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Le bruit du monde ce soir est au Liban qui vote malgré le chaos, la déroute financière inédite. La question ce soir, c'est comment on fait quand on a 20 ans et qu'on vit au Liban? C'est un reportage signé Aurélien Colli. Et pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logénie.
On ira en Écosse qui a dévoilé un prototype de fusée réutilisable. L'Écosse qui mise de plus en plus sur la conquête spatiale.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes? C'est vous, Angélique Boin. Bonsoir, Angélique.
Bonsoir, peut-on désobéir au traité européen? Le débat politique français fait réagir ici. Je vous propose l'éclairage d'une éminente juriste, Marianne Donny. Elle préside le Centre de droit européen à Bruxelles.
Le monde d'après, Jean-Marc Four. Bonsoir, Jean-Marc.
Bonsoir à tous. La Finlande confirme son intention d'adhérer à l'OTAN. La Suède va suivre. C'est un échec flagrant pour Poutine, mais ça pose de vrais défis à l'Occident.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète, ce n'est pas fini. Il passe par le Royaume-Uni avec des morceaux de Barbade et de Turquie à l'intérieur. Nilüfer Yanya, Stabilize sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
And if I'm gonna save me, and if I'm gonna save us, and if I'm gonna save us, and if I'm gonna.
Le bruit du monde ce soir est au Liban où des élections vont se tenir ce week-end, vous le savez, législatives pour renouveler le Parlement verrouillé par les partis confessionnels depuis la fin de la guerre civile il y a 30 ans. Des partis accusés d'avoir mis le pays en faillite, des partis affaiblis, rejetés par les Libanais mais qui dominent encore. Alors question, comment vit-on quand on a 20 ans dans un Liban qui s'est effondré, qui traverse la pire crise économique et financière qu'ait connue le pays depuis le 19e siècle, c'est ce que dit la Banque mondiale. Vous allez rencontrer Malaké, Soltan, Maïssa, Ahmad et Carlo. Ils vivent dans le nord, le sud, le centre du Liban. Ils sont chrétiens sunnites ou chiites. Ils ne peuvent pas voter dimanche parce qu'ils n'ont pas 21 ans. Et pourtant, l'avenir de leur pays, c'est aussi le leur. Et le reste, c'est Aurélien Colli qui raconte.
Avoir 20 ans dans un Liban qui se délite depuis 3 ans, c'est se faire voler une partie de sa jeunesse. L'insouciance de ces années où on se projette dans l'avenir, c'est Malaké qui dit ça. Je l'ai rencontré dans un café branché de la ville de Tyr, au sud du Liban.
C'est vrai que j'ai grandi en voyant mon pays s'écrouler. Il y a une partie de moi qui s'écroule avec lui. Toutes les personnes de mon âge qui avaient des plans de futur, elles ont vu tout ça s'effondrer parce qu'on ne peut plus, parce que la plupart n'ont plus les moyens. Nous, on a grandi un peu plus vite que notre âge, en fait, malheureusement, à cause du pays. Alors, en fait, on a l'impression que notre pays nous rejette, en fait, tout simplement.
Depuis le début de la crise, en 2019, des milliers de Libanais ont quitté leur pays. Ça a commencé avec tous ceux qui avaient des doubles nationalités, et puis ensuite ceux qui ont pu partir pour un boulot, pour un business ou pour des études. Et ça a créé un vide, dit Malaké.
La plupart de mes amis et de ma famille aussi, elle est partie. Toutes les personnes autour de moi ont changé, en fait. Même tous les repères qu'on avait, ils sont plus là. C'est vrai que les parents, ils veulent qu'on parte et qu'on ne revienne plus parce qu'eux, ils ont vécu tout ça, ils sont revenus. Moi, papa, il me dit, bah non, tu dois partir et ne plus revenir parce qu'il n'y a pas de futur à ce pays, en fait.
Partir ou rester, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui au Liban, même quand on n'a que 20 ans. Et c'est déjà celle que se posait la génération précédente à cause de la guerre civile. Malaké en parle souvent avec Soltan, un de ses amis. Ils se sont rencontrés en 2019 dans la rue. Comme des milliers de Libanais, ils manifestaient pour demander un changement, un avenir débarrassé de l'héritage de cette guerre civile, les vieux chefs politiques, les partis confessionnels, le clientélisme ou encore la corruption.
Nous étions par millions dans la rue, dans tout le Liban, toutes les confessions, avec le même but, établir un État pour les citoyens. Que le Liban ne soit plus un État au service des communautés. Aujourd'hui, pour tous les Libanais, la vie a changé, toutes les classes sociales sont touchées. La classe moyenne disparaît, les pauvres sont encore plus pauvres. J'essaye de ne pas m'orienter vers l'immigration, mais ça reste une option, comme pour tous ceux qui vivent au Liban.
Pour certains Libanais, le départ n'est même plus une option, c'est une nécessité, quel que soit le risque. À l'opposé du pays, dans le nord, à Tripoli, il y a régulièrement des embarcations qui tentent de rejoindre Chypre et l'Europe. Avant, c'était plutôt des réfugiés syriens à bord. Aujourd'hui, ce sont aussi des Libanais. Ahmad veut aussi tenter sa chance comme ça. Il a 19 ans, il est laveur de voitures pour 2 euros par jour.
Je dois travailler pour aider la famille. J'ai quitté l'école tôt, mais c'est très dur. On arrive à peine à survivre. Moi, je ne vais pas rester au Liban. Depuis que je suis né dans ce pays, on a toujours reçu des promesses qui n'ont jamais été tenues. On nous a jamais rien donné, rien assuré. J'ai le même rêve que tout le monde, vivre correctement, avoir des habits, des choses à moi, vivre en paix, sereinement. Donc à la première occasion, je suis prêt à quitter ce pays.
Mi-avril, au large de Tripoli, une trentaine de migrants libanais sont morts noyés dans le naufrage de leur bateau. Maïssa a couvert ce drame. Elle est journaliste pour des plateformes sur Internet et pour les réseaux sociaux. Elle avait quitté le Liban l'année dernière, mais elle a décidé de revenir.
Je ne peux pas vivre à l'étranger. J'aime toutes les rues de ce pays et je ne veux pas le quitter. Peut-être qu'à l'extérieur, j'aurai de l'argent, du travail, de la reconnaissance, mais c'est ici que j'ai besoin de reconnaissance. Mon rêve, c'est de mettre fin à cette crise parce qu'on vit au jour le jour, pas en se demandant ce qu'on va faire demain ou dans 2 ans. Le Liban est devenu un pays pauvre. Le pays pauvre des politiciens milliardaires, c'est injuste.
On vit au jour le jour. Quand Maïssa a prononcé ces mots à Tripoli, la grande ville des musulmans sunnites du Liban, j'ai pensé à Carlo qui m'a dit exactement la même chose à Jounieh, une des grandes villes chrétiennes. Lui, il a 21 ans, il rêve d'un Liban sans communauté. Il fait des études de musique qu'il finance en jouant des percussions pour des groupes. Il fait aussi de la photographie.
Le plus important dans ce pays, c'est de vivre au jour le jour parce que tu ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup de mes amis sont partis. Je ne peux pas les en empêcher parce que c'est un sacrifice, mais moi, je reste. Mais je n'appartiens à aucun parti et je me tiens éloigné de la politique qui oppose les confessions. J'aimerais juste voir mon pays comme les autres, avec au moins de l'électricité, que la nuit se soit illuminée comme avant. On a le plus beau pays du monde, mais il faudrait qu'on nous laisse en prendre soin.
Aurélien Colli, merci beaucoup pour le reportage. À très vite, bien sûr. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logeni.
New Sumac, the world's first milk formula with 2FL. Formulated with DHA.
Et voici une publicité américaine, Sébastien, pour le lait infantile, le lait pour bébé qui se fait rare aux États-Unis. C'est une pénurie historique.
Oui, une pénurie inédite qui prend les allures de crise nationale. On ne compte plus les photos sur les réseaux sociaux avec des rayons de lait pour bébé totalement vides. Selon les médias américains, plus de 40% des stocks sont épuisés dans 11 000 magasins. Plus de la moitié des produits ne sont plus disponibles dans 6 États, Tennessee, Iowa, Texas, Missouri, Dakota. Les télés multiplient les sujets sur cette affaire avec des parents de plus en plus désemparés. On entend là des parents obligés de se faire envoyer des boîtes de lait par la poste, par des amis, obligés d'acheter des boîtes en Allemagne par Internet avec des plateformes qui ont parfois multiplié leur prix par 3. Alors qu'est-ce qui explique cette crise? Au départ, il y a comme pour tous les produits manufacturés des problèmes d'approvisionnement suite au Covid, soucis logistiques de stock, notamment avec la Chine qui produit certains ingrédients et le packaging. Puis il y a eu un scandale sanitaire avec le lait Similac, deux enfants morts d'une infection bactérienne. Une usine Abbott a dû fermer avant d'être mise hors de cause. Aujourd'hui, l'affaire est devenue politique. Les Républicains exhortent Joe Biden à se saisir de la situation. La porte-parole de la Maison-Blanche a dû monter au créneau en début de semaine pour expliquer que l'administration faisait tout son possible. Eh bien, des mesures doivent être annoncées aujourd'hui dans la soirée.
L'Écosse accélère ses projets de conquête spatiale.
Oui, on en avait déjà parlé ici, de ce port spatial en construction au nord des Shetlands, sur l'île quasi désertique de Hunst, où les moutons sont plus nombreux que les humains. Les plans de construction pour ce Cap Canaveral en kilt ont été approuvés. Un premier satellite pourrait être lancé d'ici la fin de l'année. Mais on découvre par ailleurs que les Shetlands ne sont pas la seule région tournée vers les étoiles. Il y a aussi les Highlands à 400 km plus au sud, toujours en Écosse. Là, c'est un premier prototype à grande échelle de fusée qui a été présenté récemment. Une fusée de 19 mètres de haut, financée par l'entreprise britannique Orbex. It all began in 2016. On entend là le film de promotion d'Orbex, une fusée filmée en pleine nuit, mise en scène façon SpaceX d'Elon Musk. Elle sera lancée d'un port spatial là aussi, le Space Hub Sutherland, qui devrait être opérationnel cette année. Un engin spatial presque bio, réutilisable et alimenté par du biopropane, un biocarburant renouvelable, on y croit.
Allez, on termine avec le nouveau projet insolite de Wim Wenders.
Le réalisateur allemand des Ailes du Désir va s'installer au Japon pour son prochain film et le sujet, tenez-vous bien, a pour personnage principal des WC, des toilettes publiques, mais pas n'importe lesquelles, des toilettes rénovées par des architectes de renommée mondiale, 17 lieux d'aisance à Tokyo transformés en œuvres d'art. Ça s'appelle le Tokyo Toilet Art Project et Wim Wenders adore le concept.
Yes, I think there is something...
Il y a quelque chose de très japonais dans cette idée, dans ce décor, explique Wim Wenders lui-même. Je pense presque, dit-il, que c'est une idée utopique, parce que les toilettes sont un endroit où tout le monde est pareil. Il n'y a pas de riches, pas de pauvres, de vieux ou de jeunes. Tout le monde fait partie de l'humanité. Voilà pour le discours. Concrètement, le cinéaste va filmer 4 histoires courtes dans plusieurs toilettes différentes. L'une d'elles est colorée, transparente et devient opaque quand on ferme la porte, heureusement. L'autre est décorée de panneaux de bois. Et puis une dernière est comme une sphère pourvue de fines lamelles laissant passer l'air. Vous pouvez admirer ces œuvres architecturales atypiques sur le site du Tokyo Toilet Art Project. Jacques, ça vaut le détour.
Allez, formidable, merci beaucoup Sébastien le génie. La suite, c'est sans surprise. Savez-vous pourquoi ?
Non.
No surprises. Radiohead. Allez, à tout de suite. Surprises et Radiohead sur France Inter. Allez, direction Bruxelles.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
The European Union, général.
Bonjour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes? Et vous, Angélique Boin, la question qui nous occupe en France, peut-on désobéir aux traités européens? Le débat, évidemment, passionne aussi chez vous, à Bruxelles, Angélique. Et pour avoir quelques réponses, vous avez rencontré une éminente juriste belge, présidente du Centre de droit européen.
Oui, ce centre, c'est l'un des lieux d'analyse scientifique et de débat de haut niveau sur le droit européen ici. Et sa présidente, hein, qui enseigne aussi à l'Université libre de Bruxelles, s'appelle Marianne Dony. Elle m'a reçue dans son bureau, entourée de ses livres et des fameux traités, hein, ces textes qui définissent les règles de fonctionnement de ce club des 27 et des institutions. Alors, peut-on y désobéir, Fabienne? Eh bien, sans surprise, voici sa première réponse.
Non, un État n'a pas le droit de désobéir à des règles qui ont été établies en commun et qui priment les règles de droit national.
Voilà, cela étant dit, eh bien, rappelons qu'on s'est tout de même assis, si je peux me permettre, sur la règle des 3% de déficit budgétaire pour pouvoir faire face au coût de la pandémie de Covid, souvenez-vous. Eh bien, dit-elle, ce n'est pas désobéir au traité que de s'accorder collectivement une dérogation.
On a décidé ensemble que, pour le moment, ce n'était pas la priorité et il fallait permettre aux États de s'endetter plus que ce que ne permet ce pacte de croissance et de stabilité. Mais ça, ce n'est pas de la désobéissance. Quand on parle de désobéissance, ça veut dire qu'on sort des règles décidées en commun sans avoir l'autorisation de le faire. Et à partir du moment où on fait ça, on se met en infraction par rapport aux règles du traité.
Mais Angélique, quand on entend notamment les insoumis chez nous, ils disent que beaucoup d'États sont en infraction et que ce serait pas si grave.
Oui, beaucoup d'États sont en infraction et ce serait pas si grave car les procédures pour les sanctionner sont très longues. Et puis, ils font aussi remarquer que la Commission européenne ne tape pas si facilement sur les grands pays, que la France pourrait donc obtenir un peu un régime de faveur. Tout cela n'est pas faux, mais plus vraiment d'actualité, nous dit Marianne Dony.
Dans certains domaines bien particuliers, c'est arrivé que la Commission soit moins encline à sortir l'artillerie lourde vis-à-vis d'un État important, bien que ce soit très rarement le cas, et ça a sans doute été beaucoup plus le cas par le passé que ce n'est maintenant. Mais d'ailleurs, je vais citer le simple exemple de la Pologne, c'est quand même un grand État. Quand on voit que c'est une violation systématique et une violation assumée, là on voit qu'on réagit.
Voilà la Pologne qui, on le rappelle, a été sanctionnée financièrement pour ces lois qui remettent en question l'indépendance de la justice. La Commission européenne ne laisserait donc pas faire, estime cette juriste. Mais elle ajoute que ce n'est pas le principal problème. Ce qui risque d'arriver, et ce qui serait pour elle beaucoup plus complexe, ce serait la multiplication de plaintes devant les tribunaux français où le droit européen prévaut sur le droit national pour tout ce qui touche par exemple au marché intérieur. Et on pourrait donc avoir, explique-t-elle, des procédures judiciaires très délicate à gérer pour les magistrats.
Si un juge national est saisi par un citoyen européen ou une entreprise européenne qui s'estime lésée parce qu'on n'a pas respecté les règles du marché intérieur, le juge national va condamner l'État français. L'État français va-t-il décider de ne pas respecter les décisions judiciaires de ses propres juges ? Ça, je crois là que c'est quelque chose qui est extrêmement problématique. Ou quand on dit qu'on va pas respecter, appliquer la politique agricole commune, on ne peut pas privilégier, par exemple, un agriculteur français par rapport à un agriculteur belge qui se trouve à 2 kilomètres de la frontière française. Si cet agriculteur belge ne peut pas vendre sa marchandise, il va faire un recours et le marché public risque d'être annulé. Alors on va dire quoi ? Ah non, c'est pas annulé parce que c'est annulé en vertu d'une règle européenne que nous ne reconnaissons pas.
Voilà, les magistrats français se retrouveraient donc à l'écouter dans une situation impossible. Et sur ce point précis, Fabienne, il serait intéressant d'avoir l'avis des insoumis.
Et donc le débat n'est pas clos, loin de là. Angélique Bouin depuis Bruxelles. Merci beaucoup Angélique.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, le président finlandais l'a confirmé ce matin. Son pays s'apprête à demander formellement son adhésion à l'OTAN et la Suède va sans doute embrayer le pas à la Finlande. C'est une conséquence directe de la guerre en Ukraine. Et pour vous, ce choix logique peut sembler rassurant vu d'Occident, mais il pose aussi des défis en pagaille et c'est votre monde d'après.
Bon, d'abord, cette décision incarne évidemment l'échec de Poutine. Le président russe vient de pousser 2 pays de plus dans les bras de son adversaire, l'Alliance Atlantique. La guerre en Ukraine a tout changé, en Finlande comme en Suède. Il y a encore 3 mois, seule une minorité, 20%, 30% de Finlandais ou de Suédois souhaitaient une adhésion à l'OTAN. Ils sont maintenant 75% en Finlande, plus de 50% en Suède. C'est clair comme de l'eau de roche, ils ont peur d'être les prochains sur la liste de l'ogre de Moscou. En Finlande, la vieille méfiance contre la Russie, méfiance héritée notamment de la résistance contre l'envahisseur soviétique en 1939, a été réactivée. En Suède, la neutralité traditionnelle des 2 derniers siècles est ébranlée. Les deux pays vont donc sans doute rejoindre l'Alliance Atlantique avec un processus d'adhésion d'ailleurs raccourci 3 ou 4 mois. Le rapport militaire sera significatif. En Finlande, 280 000 conscrits mobilisables, des avions modernes F-18 et bientôt F-35, plus de 60. Une expertise forte sur le renseignement et le cyber. En Suède, 60 000 hommes, bientôt portés à 80 000, 10 000. Un service militaire partiellement rétabli, un budget de défense au plus haut depuis la guerre froide. Regardez-vous dans le miroir, dit le président finlandais à Vladimir Poutine. C'est vous qui avez causé cela. Donc à première vue, bonne nouvelle pour les Occidentaux, leur alliance est renforcée face à Moscou.
Mais pour vous, il y a aussi, Jean-Marc, de quoi s'inquiéter ?
Il y a d'abord un sérieux défi militaire. La Finlande, c'est 1340 km de frontière terrestre avec la Russie. Autrement dit, la frontière directe entre la Russie et l'OTAN va doubler de taille immédiatement. Il va falloir sécuriser la zone, c'est pas une mince affaire. Les Finlandais s'inquiètent en particulier de la période de transition. Dès maintenant, et jusqu'à l'adhésion pleine et entière, pendant cette zone grise, la Finlande ne sera pas officiellement protégée par la clause de défense collective de l'OTAN. D'où un intense balai diplomatique. Les autorités finlandaises veulent s'assurer que pendant ces quelques mois, les Baltes, les Allemands, les Britanniques viendront quand même à leur secours au cas où. Parce qu'évidemment, la Russie peut avoir la tentation d'agir, déployer près de la frontière ou dans l'enclave de Kaliningrad des missiles dernière génération Iskander, de l'arsenal nucléaire. La grande ville de Saint-Pétersbourg n'est qu'à 140 km de la Finlande. C'est la distance Paris-Rouen, vous imaginez, c'est la porte à côté. Et déjà, le mois dernier, des avions russes ont effectué des incursions dans l'espace aérien finlandais. Et puis à cette frontière terrestre, il faut ajouter la frontière maritime, où la tension militaire peut également croître. C'est le risque d'un conflit dans l'Arctique, cette terre de glace où, on le sait, le réchauffement déclenche les convoitises minières et commerciales. Les manœuvres militaires s'y sont multipliées ces dernières années. côté OTAN comme côté Russie.
Oui, mais bon, encore une fois, Jean-Marc, c'est Poutine qui a déclenché tout ça avec l'invasion de l'Ukraine.
Absolument, je vous dis pas le contraire, sauf que ce n'est pas son analyse à lui. Et ça nous renvoie à l'autre défi soulevé par cette adhésion de la Finlande et sans doute de la Suède, le défi politique, diplomatique. Pour le président russe, on l'a compris, le vrai responsable de la guerre, c'est l'OTAN, en raison de son expansionnisme depuis l'éclatement de l'Union soviétique. Rappelons que 14 pays de l'ex-Europe de l'Est ont rejoint l'Alliance Atlantique depuis 30 ans, notamment la Pologne, les Pays-Baltes. Vu de Moscou, la menace de l'OTAN va donc s'accroître, se rapprocher dès l'instant où la Finlande et la Suède vont en devenir les 31e et 32e membres. D'ailleurs, le ministère russe des Affaires étrangères a déjà brandi la menace de graves conséquences, de mesures de rétorsion en cas d'adhésion. La décision des deux pays nordiques, toute compréhensible qu'elle soit, va alimenter le raisonnement de Moscou. D'autant plus que le pouvoir russe sera, comme toujours, tenté de livrer sa vision de l'histoire, en rappelant que la Finlande fut une terre russe de 1809 à 1917. Pour le dire autrement, nous sommes dans un engrenage, un élément supplémentaire de rupture politique, rien qui soit susceptible de favoriser un rétablissement du dialogue, plutôt l'inverse, la matérialisation d'un nouveau rideau de fer aux frontières extérieures de la Russie, en incluant sans doute la Biélorussie et une partie est de l'Ukraine. Les deux blocs sont vraiment en train de s'éloigner, de se brouiller durablement.
Le monde d'après de Jean-Marc Four, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. Pour nous, ça continue le 18-20. La suite, c'est le téléphone sonne et puis le journal d'Hélène Philly juste avant. Merci de passer la soirée avec nous. Ne changez rien.